Bon, j'ai prévu un topo un peu plus court parce que je me suis doutée que mes collègues allaient être très bavards et je ne m'étais pas trompée. Et puis aussi parce que mon topo va être complété par le témoignage de la sœur d'une villageoise qui vit actuellement dans le village dont je vais parler et je ne voudrais pas vous priver de son expérience. Donc, je vais essayer de faire court, mais néanmoins essayer de faire passer un certain nombre de choses concernant ce projet qui, effectivement, est un projet qui comporte une innovation sociale considérable, et vous allez vite le comprendre, mais aussi une innovation sur le plan de la recherche, et c'est à ce titre, bien sûr, qui m'intéresse beaucoup. Alors, j'avais choisi de commencer mon topo en me disant que, quand je voyais le titre des interventions qui me précédaient, finalement, c'était peut-être intéressant de démarrer par un rappel de deux notions assez fondamentales sur la manière dont on conçoit une maladie. Je trouve que c'est deux modèles qui cohabitent, et je dis bien qui cohabitent et non pas qui s'affrontent dans la maladie d'Alzheimer, je trouve sont bien représentés par ce tour de parole cet après-midi. Alors, il y a le modèle médical qui considère, donc c'est deux manières de concevoir une maladie, quelle que soit la maladie, le modèle médical qui considère que la maladie, c'est avant tout un organe ou des organes qui dysfonctionnent. Et donc, l'individu qui souffre de cette maladie, c'est l'individu qui est porteur de cet organe qui dysfonctionne. On diagnostique la maladie et on va la prendre en charge dans une optique curative. On va chercher à soigner. Et par conséquent, c'est le système médical, les professionnels de santé qui essentiellement sont concernés par l'accompagnement et la prise en charge des malades. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le modèle social qui considère que finalement, exprimer une maladie, c'est la résultante d'un phénomène plus complexe, bien sûr, qui fait intervenir des facteurs éthiopathologiques, hein, physiopathologiques, ça va de soi, mais pas seulement, qui fait intervenir aussi des particularités, des facteurs individuels et des facteurs sociaux. Alors, quand on a cette définition d'une maladie, on va du coup considérer qu'une maladie, elle va affecter l'individu, bien sûr, mais pas seulement, elle va affecter aussi toutes les personnes qui interagissent avec elle, et en particulier sa famille, son entourage. Dans ces cas-là, elle va être accompagnée non pas nécessairement dans une optique curative, mais dans une optique qui va chercher à préserver, à optimiser la qualité de vie de l'individu et surtout son adéquation avec son environnement de vie. Et du coup, ce n'est pas le système médical uniquement qui est concerné, mais bien toute la société qui est concernée. Et donc, pour dire les choses simplement et pour résumer les choses simplement, dans le modèle médical, le problème, entre guillemets, bien sûr, c'est le malade, hein, c'est lui sur lequel il faut agir, puisque c'est lui qui est porteur de la maladie. Tandis que dans le modèle social, on considère que le problème, ce n'est pas tant le malade, c'est la société lorsque celle-ci n'est pas adaptée à l'individu en situation de maladie. Alors, est-ce que dans la maladie d'Alzheimer, on se situe dans un modèle médical ou un modèle social? Encore une fois, je pense, j'ai déjà donné la réponse, que les deux modèles doivent coexister, doivent cohabiter et non pas s'exclure l'un l'autre. Le modèle social, c'est un modèle qui est très présent dans le domaine du handicap et qui est en train de devenir de plus en plus présent dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. Pour schématiser, c'est ma vision des choses, mais je ne crois pas être je ne crois pas faire une analyse très délirante si je fais une rétrospective de ces 40 dernières années. On a été d'abord dans un modèle exclusivement médical quand on a découvert la maladie. Alors là, je remonte pas à Loïs Alzheimer, bien sûr, mais quand on a commencé à la définir avec les premiers critères diagnostiques en 1984, on était encore dans l'illusion que, avec ces critères, on allait pouvoir la diagnostiquer et puis la recherche thérapeutique commençait à foisonner. On allait trouver un médicament qui allait être en mesure de soigner la maladie. Le temps passant, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Et puis, très vite, des approches dites non médicamenteuses sont venues agrémenter, compléter la prise en charge, et en particulier, fin des années 90, c'est toutes les approches de stimulation cognitive qui éclatent, qui explosent, et on se dit, ben, voilà, il faut aussi stimuler la cognition des malades. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que ces stimulations cognitives, finalement, elles ne tenaient pas du tout leurs promesses, malheureusement, et il fallait des approches dites psychosociales, on a commencé à introduire ce terme, c'est-à-dire qui cherchaient à intervenir sur l'environnement psychologique et social de l'individu et des aidants. On a commencé là aussi à inclure les aidants dans la prise en charge. Et puis, les années passant, il y a eu quand même, alors on a eu tout à l'heure des résultats encourageants, mais quand même, on a bien entendu les précautions qu'il fallait entendre, qu'il fallait comprendre derrière ces résultats positifs du dernier anticorps monoclonal. Avant ça, on a eu quand même des dizaines et des dizaines d'années d'échecs thérapeutiques qui ont considérablement, je dirais, affaibli le modèle médical. Et aujourd'hui, on voit apparaître des approches qu'on appelle, alors pardon pour l'anglicisme, mais quand on le traduit en français, c'est pas très très joli, des approches qu'on appelle dementia-friendly. Dementia-friendly, amis de la démence, vous voyez, c'est pas très joli en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un concept qui fait écho au concept de age-friendly de l'OMS, qui fait référence à toutes ces initiatives, tous ces efforts qui sont faits pour promouvoir la qualité de vie des aînés. Ça, c'est le concept de age-friendly. Hein, toutes ces initiatives de la société qui sont faites pour promouvoir l'inclusion, la qualité de vie des personnes âgées. Dementia-friendly fait écho à cela, en fait, et fait référence à toutes ces initiatives sociales, environnementales, qui vont chercher, d'une part, à essayer de changer le regard porté par la société sur ces malades. Ça, c'est le premier objectif de ces approches. Et d'autre part, chercher à privilégier, et jusqu'à la fin de la vie, la dignité et la qualité de vie de la personne. Alors, il y a de multiples exemples d'initiatives dementia-friendly, encore une fois, pardon pour l'anglicisme. Peut-être savez-vous ou pas que l'aéroport d'Heathrow, un des grands aéroports de Londres, c'est le premier aéroport dit dementia-friendly. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 2016, de gros efforts, vraiment de gros efforts ont été faits pour former tous les personnels, pas seulement navigants, mais les personnels au sol, commerçants, policiers, douaniers, etc., tous les personnels qui gravitent autour de l'aéroport, c'est-à-dire 76 000 personnes, hein, j'ai reporté le chiffre parce qu'à chaque fois le nombre, ça m'impressionne, tous ces personnels ont reçu une sensibilisation à la démence. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble cognitif? Qu'est-ce que c'est qu'un trouble du comportement? Comment est-ce qu'on peut réagir, etc. Et puis, du point de vue pratico-pratique, des aménagements ont été faits, des salons spécifiquement dédiés aux personnes souffrant de démence, des repères saillants qui sont faciles à repérer lorsqu'on veut aider à une personne qui a des troubles cognitifs à s'orienter, etc. Donc, premier aéroport dans le monde, Heathrow, si jamais vous y allez, vous essaierez de voir si ces repères ont une utilité ou pas. En tout cas, des efforts importants ont été faits. La ville de Bruges, en Belgique, idem, peut-être que vous savez ça, c'est une ville qui est dementia-friendly et qui revendique avec fierté cette particularité. Là aussi, tous les commerçants, les personnels de la municipalité, les policiers, les postiers, etc., ont été sensibilisés à la démence. Qu'est-ce que vous faites si une personne a un trouble cognitif dans votre magasin? Qu'est-ce que c'est qu'un trouble du comportement? Pourquoi il ne faut pas nécessairement être mal à l'aise et pourtant c'est spontanément un malaise qui vous envahit? Mais pourquoi c'est important de ne pas réagir comme ça, etc. Et puis, il y a un autre projet Dementia Friendly qui avait fait beaucoup de bruit à son ouverture en 2009, soit il y a maintenant plus de 10 ans. C'est le premier village Alzheimer dans le monde qui a vu le jour dans la banlieue d'Amsterdam. Et ce village, Alzheimer, alors vraiment, il avait, j'ai repris la diapo en anglais parce que j'ai vraiment fait un copier-coller en quelque sorte de leur philosophie, leur leitmotiv. Ce village, en fait, il avait, dès son ouverture, créé deux camps, les pros et les contres. Alors, il y avait les contres qui disaient, mais on va ghettoiser les personnes Alzheimer, c'est une honte, il ne faut pas faire ça. Et puis, les pros qui, en général, revenaient d'une visite dans le village et revenaient assez séduits, en général, en se disant, ben, quand même, je n'étais pas convaincue, mais j'en reviens et finalement, je me dis que c'est drôlement bien. Ben, 10 ans plus tard, ou 12 ans plus tard, je ne suis pas capable de vous répondre et personne n'est en mesure de dire si ce dispositif, en réalité, a permis ou permet, puisqu'il existe encore bien sûr, permet aux personnes qui y vivent de vivre mieux leur maladie. On a envie d'espérer, de penser que oui, mais en réalité, c'est une opinion, c'est un espoir peut-être, mais ce n'est pas une réalité puisqu'il n'y a jamais eu de recherche, il n'y a jamais eu de dispositif d'évaluation objective qui a accompagné ce projet. Et c'est vraiment dommage. Et voilà où je veux en venir, le village landais Henri-Emmanuel Hier. Je ne vais plus l'appeler village landais Alzheimer puisque c'était effectivement son nom de baptême, et puis il a été rebaptisé lors de son inauguration en 2022. Évidemment, l'inauguration a été retardée à cause de la pandémie. Et donc maintenant, c'est le village landais Henri-Emmanuelli, parce que c'est la volonté initiale, elle émane d'Henri-Emmanuelli, qui a vraiment été au cœur de ce projet. Alors, c'est un village qui existe, qui a ouvert depuis l'été 2020, à Dax. Il accueille aujourd'hui 120 personnes souffrant de maladie d'Alzheimer et autant de professionnels et aussi des bénévoles qui ont aussi un rôle important dans le village. Donc le village se situe vraiment tout près du centre de Dax avec une ligne de bus qui relie directement le village et le centre. Donc vraiment l'arrêt de bus a été construit de manière à ce qu'il desserve directement le village. Alors, une des particularités, c'est une des choses qui vous interpelle dès que vous y mettez les pieds, c'est que vous ne mettez pas les pieds dans... C'est un établissement médical, oui, bien sûr, et pourtant, rien, absolument rien, n'évoque de signes médicaux. Il n'y a vraiment rien. Le mobilier, ce n'est pas un mobilier d'hôpital. Les personnels n'ont pas de blouse blanche. Vous n'êtes pas capable de dire qui est infirmier, qui est aide-soignant, qui est accompagnant, qui est bénévole, qui est villageois. Tout est fait pour respecter le rythme de vie des personnes. Il n'y a pas de... Vous savez qu'une des contraintes... Alors, ce n'est pas le cas de tous les EHPAD, bien sûr, mais une des contraintes particulièrement difficiles quand on est en institution, c'est de se plier au rythme institutionnel. Et si on est un lève-tard, et que les habitudes, c'est plutôt de faire la toilette à 7h du matin, on est obligé d'être réveillé à 7h du matin. Là, l'idée, c'est vraiment de respecter complètement les horaires de lever, de coucher. Quand j'entre dans une maison, je vois régulièrement, 11h du matin, certains qui petit déjeunent, d'autres qui jouent aux cartes et d'autres qui attendent impatiemment le repas. Chacun va à son rythme, chacun le choix de la tenue, par exemple, ça fait aussi partie des choses qui sont assez particulières. C'est eux, s'ils n'ont pas envie de s'habiller, ils ne s'habillent pas. Alors, c'est bâti vraiment comme un village. L'idée de village, le mot village, ce n'est pas un mot complètement emprunté. Il a été bâti, conçu, sur le plan architectural, comme un village traditionnel des Landes, avec la bastide, la place centrale, avec les arcades caractéristiques des villes landaises. Une bastide autour de laquelle il y a quelque chose qui ressemble à une épicerie, où les villageois viennent le matin prendre les denrées achetées, entre guillemets, même si ce n'est pas un véritable achat, bien sûr, les denrées qui permettront de faire le repas du midi. Donc une épicerie, une brasserie, un salon de coiffure, un centre médical, une médiathèque, un terrain de pétanque au centre, des balançoires. Voilà, quelque chose qui ressemble vraiment à une place et où on a l'opportunité, dès qu'on traverse, on va forcément croiser quelqu'un, on va s'arrêter, papoter, parce que c'est comme ça que ça se passe en général et dans la vie normale. Le village est constitué de 4 quartiers. Chaque quartier est composé de 4 maisonnées. Donc là aussi, c'est un peu l'idée du village. Et on parle et on se réfère à tel et tel village quand on fait référence à une zone géographique. Et puis surtout, tout est fait pour... à la fois ressembler à un environnement de vie ordinaire, c'est ça le maître mot, c'est vivre, essayer de vivre normalement. Ce n'est pas nécessairement essayer de vivre très activement ou en faisant des milliers de choses, c'est essayer de vivre normalement et favoriser le lien social au travers d'activités diverses en optimisant les rencontres formelles, informelles, avec les bénévoles, avec les familles, avec le public extérieur, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est que le village est ouvert au public. Voilà, donc c'est un lieu d'innovation sociale pour toutes les raisons que je viens de dire. C'est aussi un lieu d'innovation pour la recherche, encore une fois, et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, parce que la recherche a été intégrée au projet institutionnel Et il a été d'emblée conçu comme un modèle expérimental. Et c'est la raison pour laquelle, moi qui n'ai pas du tout participé, bien sûr, à sa conception, je participe maintenant à l'évaluation de manière vraiment externe, objective, de manière à savoir si, au final, ce dispositif va véritablement, on parlait de disease modifier, est-ce que c'est un disease modifier ou pas, est-ce qu'on va être en mesure d'impacter les trajectoires d'évolution des villageois, éventuellement d'ailleurs des familles, là on ne parlera pas de trajectoire clinique, mais est-ce qu'également ça a un impact sur les familles ou sur les professionnels, c'est toute la question et toutes les questions qu'on essaie de poser. Donc c'est un programme de recherche que nous menons actuellement, basé sur de multiples indicateurs recueillis auprès de tous les acteurs du village, à la fois les villageois que nous voyons tous les 6 mois, auprès des familles également que nous interrogeons tous les 6 mois, auprès des professionnels, auprès des bénévoles, avec une partie de l'étude qui porte sur des indicateurs médico-économiques. Ça, c'est une partie qu'on fait avec des économistes de la santé, hein, c'est pas moi qui fais ça. Mais évidemment, chiffrer le coût et le bénéfice qu'on peut retirer, c'est évidemment très très important pour statuer de sa possible réplicabilité. Et puis il y a aussi une enquête en population générale qui est déjà terminée. Bon, je passe vite parce que le temps passe. Mais ça, je peux déjà vous présenter les résultats parce qu'ils sont publiés. Pour les autres, ils sont en cours, donc je ne peux pas en dire grand-chose. Mais on a aussi mené une enquête grand public, puisque dans ces initiatives dites « dementia friendly », vous avez compris qu'un des objectifs, c'était de changer le regard que porte la société sur les malades. Et donc, très vite, je me suis dit, est-ce que ce village Alzheimer, est-ce que ce village landais véhicule une image très différente des EHPAD ? Est-ce que vraiment, dans la population, dans le grand public, la représentation de la maladie va changer ou pas ? Et en fait, j'avais déjà la puce à l'oreille parce que, bien avant son ouverture, on a commencé à travailler sur le protocole quasiment 2 ans avant son ouverture, et on entendait déjà parler d'une liste d'attente qui ne faisait que s'allonger, et 2 ans avant l'ouverture, il y avait déjà 250 personnes qui voulaient entrer dans ce village. Donc je me suis dit, c'est pas anecdotique, ça veut quand même dire que pour monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, ce village ne représente pas exactement la même chose que représente un EHPAD, parce que j'ai pas connaissance d'EHPAD qui suscite un tel engouement, on va dire. Et là, je vais très très vite. Donc, on a mené une enquête avant ouverture du village et après ouverture du village, dans la commune de Dax et autour de Dax. Et on a fait exactement la même enquête au même moment dans une autre ville, qui est Villeneuve-sur-Lot, dans laquelle il n'y avait pas de projet similaire au village landais Alzheimer. Et donc, c'est une enquête qui porte sur les représentations de la maladie d'Alzheimer. Hein, c'est des personnes vraiment tous azimuts qui ont été interrogées. Je passe sur la méthodologie, mais on a vraiment stratifié de manière à avoir toutes les tranches d'âge, catégories socio-professionnelles, etc. Et en fait, il y a un item qui change. Il n'y a pas tout qui change, bien sûr. Après ouverture du village landais, n'ont pas une vision complètement, drastiquement différente de celle qu'ils avaient auparavant. Hein. Ils ne se mettent pas tout d'un coup à considérer que c'est une chouette maladie, bien évidemment. Donc il n'y a pas tout qui change, mais il y a un item qui change. C'est une caractéristique qui est fréquemment évoquée lorsque on demande de définir la maladie d'Alzheimer, c'est la perte d'identité. C'est une maladie qui fait peur parce qu'on perd son identité. Et en fait, cette réponse est moins fréquemment citée après ouverture du village, alors qu'il n'y a pas de différence dans la ville contrôle, à Villeneuve-sur-Lot. On répond strictement la même chose avant et après. Et il y a une deuxième réponse qui évolue, enfin, dont la fréquence évolue. On a aussi sondé les émotions que vous évoquez, hein, qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à une personne qui a la maladie d'Alzheimer. On peut dire, ben, j'ai peur, je ressens de la pitié, du mépris, de la jalousie, de l'appréhension, du dégoût. Ce sont des échelles qui sont validées. Hein. Et en fait, la réponse dégoût, qui est une réponse très très forte, hein, je ressens du dégoût, c'est quand même pas rien, eh bien, cette réponse, elle est moins souvent évoquée après ouverture du village autour de Dax, alors qu'il n'y a pas de changement dans la ville contrôle. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Ce sont des résultats modestes. Ça ne va pas être les résultats principaux pour évaluer le dispositif. Néanmoins, il me semble que montrer qu'il y a quelque chose qui change un petit peu, qui bouge dans les représentations de cette maladie avec de tels projets, de tels dispositifs, ce n'est pas tout à fait rien, parce qu'on sait que modifier les représentations, modifier les mentalités, changer les mentalités, c'est quelque chose de très très difficile parce qu'en général, elles sont bien robustes et bien ancrées. Voilà, et puis je termine avec un clin d'œil avec en vous montrant l'équipe de recherche. Je ne suis pas la seule, bien sûr, à travailler sur ce projet. Toute l'équipe ne travaille pas sur ce projet, mais un certain nombre sont à demeure, puisque ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on a vraiment des chercheurs et des assistants de recherche sur place, tous les jours, qui effectuent et qui recueillent ces données. Voilà. Merci.
Merci beaucoup.